au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 13 avril, à l'émission aujourd'hui, Guillaume Roy, propriétaire de la Chope à pain de Terrebonne, une entreprise qui a le vent dans les voiles. Avec Pierre Paquette, on parle de la CAQ qui a choisi hier sa nouvelle chef, Christine Fréchette, à 58%. Y a-t-il un risque de scission à la CAQ? C'est la question qu'on se pose avec Pierre Paquette. Isabelle Perrault sera avec nous, préfète de la MRC de Matawinie. On va parler d'enjeux en habitation. Également, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la Naudière, Pascale Derry, avec qui il sera question de la sacoche de Repentigny. Aussi, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, qui sera là pour dresser ses priorités pour la nouvelle première ministre désignée, Christine Fréchette. Mais tout d'abord, ces jours d'élection partielle dans Terrebonne, les électeurs ont jusqu'à ce soir 20h30 pour se prévaloir de leur droit de vote. Et tout de suite, on va aller rejoindre Régent Turgeon, qui est dans la circonscription de Terrebonne. Bonjour, Régent.
Bonjour, Claude.
C'est une partielle quand même assez importante, autant pour les bloquistes que les libéraux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Adrienne Charles aussi comme candidate conservatrice et Maxime Beaudoin pour le NPD.
Oui, effectivement. Et puis ici, d'entrée de jeu, on peut parler de l'intérêt de cette campagne électorale-là. Il faut voir aussi le vote par anticipation. On chiffre à près de 20% le nombre d'électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote là, par anticipation du 3 au 6 avril dernier. On parle de 18 200 votes, c'est quand même pas rien. Terrebonne compte un peu plus de 91 000 électeurs, en fait. 91 344 électeurs pour être précis, mais selon Élections Canada, ces chiffres-là ne sont pas définitifs, ce sont des chiffres préliminaires. Et oui, c'est une course pour l'essentiel, Claude, entre les libéraux et les caquistes, on se rappelle. Là,
et plutôt le Bloc québécois, oui.
Oui, entre le Bloc québécois et les libéraux. On se rappellera que la candidate libérale, Mme Auguste, Tatiana Auguste, avait causé toute une surprise en l'emportant par une seule vote en avril dernier. Toutefois, un vote en faveur de la candidate là, bloquiste, Nathalie Sinclair de Gagné, n'avait pas été comptabilisé en raison d'une erreur de code postal. Mme Sinclair de Gagné avait porté la cause devant les tribunaux. La Cour suprême du Canada a annulé le résultat de 2025 et a ordonné la reprise du scrutin.
Il faut mentionner, Régent, que ça avait coûté quand même assez cher au Bloc québécois, tout ça, là, c'est-à-dire de se rendre jusqu'en cours là, avec ce dossier-là.
Oui, c'est évidemment à s'adresser aux tribunaux, particulièrement jusqu'en Cour suprême du Canada, c'est beaucoup de frais. Mais évidemment, pour Mme Sinclair de Gagné, c'est une question de principe, parce que dans tous les cas, si on avait comptabilisé ce vote-là l'an dernier, ça aurait été une élection et à égalité. Donc, on aurait repris, bien sûr. C'est certain qu'aller en Cour suprême, ça nécessite des investissements, mais dans ce cas-ci, c'était une question de droit, de justice, et évidemment, Mme Sinclair de Gagné voulait aller au bout de sa démarche. Les derniers sondages, Claude parle d'une course, on le dit encore cette fois, entre bloquistes et libéraux. Les libéraux auraient une légère avance de seulement 2 points de pourcentage. C'est pas énorme. Donc, rien n'est acquis pour l'instant.
Il faut rappeler aussi qu'il y a aujourd'hui deux autres partiels dans la région de Toronto cette fois, et on est presque assuré là, que le Parti libéral l'emportera de ce côté-là et que demain matin, on va se réveiller avec un gouvernement libéral majoritaire.
Il y a de fortes chances, en effet, que ce soit le cas. Les deux élections en Ontario sont dans les circonscriptions de Scarborough Sud-Ouest et University Rosedale, des châteaux forts bureaux. Alors, évidemment, la région de Terrebonne, l'élection dans Terrebonne n'est pas entièrement désuète d'intérêt. Chacun des partis en présence veut remporter cette victoire-là. Et puis, évidemment, avec l'arrivée de la plus récente transfuge, Marilyn Gladue, les libéraux la détiennent présentement 171 des 343 sièges aux communes. En théorie, Claude, il faut 172 sièges pour donner la majorité absolue. Mais puisque le président de la Chambre est un libéral et qu'il ne peut pas voter en cas d'égalité, il faut 173 députés au gouvernement Carney pour être véritablement majoritaire, d'où l'importance de l'élection dans Terrebonne.
L'enjeu principal, ce serait pas le train à haute vitesse?
Ça dépend des gens qui en parlent. Évidemment, les enjeux de la campagne pour le Bloc québécois, on a accordé une attention particulière au projet de TGV Alto et les effets appréhendés là, sur les producteurs agricoles et les propriétaires qui pourraient devoir être expropriés. On se rappelle encore du fameux dossier de Mirabel. On veut du côté du Bloc de véritables consultations publiques et évidemment à connaître les coûts véritables de ce projet qui ne sera pas sur les rangs avant encore quelques années. Côté libéral, là, Mme Auguste, oui, elle est consciente de cet enjeu-là, mais elle a beaucoup incité. Ce qu'elle entend des électeurs, c'est le coût de la vie, l'aide aux familles, le logement abordable. Et elle a fait aussi de sa campagne la prévention là, de la délinquance chez les jeunes, un important dossier de sa campagne. Évidemment, les libéraux veulent leur majorité. Du côté du Bloc, on vise un 23e siège aux communes et surtout avoir le sentiment qu'on a encore une place importante chez les électeurs francophones de la province.
Et il faut rappeler, en terminant, Réjean, que les libéraux ont sorti la grosse gomme là, pour cette partielle dans Terrebonne, de nombreuses visites de ministres d'importance et même du premier ministre Mark Carney.
Effectivement, M. Carney est venu à deux reprises là dans Terrebonne, quelques jours avant le déclenchement officiel des élections. Et il y a eu également plusieurs députés et ministres libéraux, dont Stephen Guilbeault et Jean-Yves Duclos. Mais du côté du Bloc, on n'était pas en reste. Hein. Mm-hmm. Le chef Yves-François Blanchet a été très présent auprès de sa candidate, évidemment dans les visites de porte-à-porte. Mme Sinclair-Desgagnés a pu compter, elle aussi, sur la présence de députés bloquistes, aussi de militants péquistes de Terrebonne, dont la députée provinciale Catherine Genticard. Ce qu'il faut remarquer...
Il y a même l'ancien chef bloquiste qui est allé faire un tour, là, M. Duceppe, Gilles Duceppe.
Oui, M. Duceppe est passé avec ses collaborateurs, mm-hmm. et évidemment... Tous les gros noms sont importants dans ce sens-là pour apporter le soutien à Mme Sinclair-Desgagnés. Il faut, en terminant, je te dirais aussi, Claude, le bulletin de vote, c'est un bulletin de vote particulier année. Ouais. Les deux candidates là, s'affrontent aujourd'hui avec Mme, évidemment, Adrienne Charles et le néo-démocrate Maxime Beaudoin, mais il y a aussi 44 autres candidats. Ouais. La plupart de ces autres candidats sont des indépendants qui participent à ce qu'on appelle le comité du bulletin de vote le plus long, qui milite pour une réforme du mode de scrutin.
C'est pour ça qu'il faut écrire le nom du candidat choisi à mitaine, là.
Voilà, au lieu d'imprimer de très longs bulletins avec le nom de chacun des candidats, ben Élection Canada a opté pour un bulletin de vote en blanc. Alors, les électeurs devront inscrire le prénom ou son initial et le nom de famille du candidat ou de la candidate qu'ils auront choisi. Est-ce que ça pourrait prêter à confusion, créer des irrégularités? Ben, ça va rester.
Bon, on le verra par le taux de rejet de vote. Merci beaucoup, Réjean Turgeon.
Merci beaucoup, M. Fournel.
On vous rappelle que c'est jusqu'à 20h30 que les citoyens de la circonscription de Terrebonne peuvent se prévaloir de leur droit de vote. Dans un moment, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'UMQ.
La Chambre de commerce du Grand Joliette invite les gens d'affaires à son événement Jazz et Bouffe, présenté par La Turquoise le 15 avril prochain. La formule? Venez réseauter à la Maison de la musique René Charrette et découvrir toute la richesse de saveurs locales offertes par les traiteurs de la région. Au son d'un trio de jazz, 15 artisans de la restauration vous feront découvrir leur offre corporative et leur créativité culinaire. Une occasion parfaite pour goûter aux bouchers qui font leur réputation, dénicher de nouvelles idées savoureuses et pourquoi pas, trouver votre prochain coup de cœur culinaire pour votre prochain party de bureau. Billets en vente dès maintenant au ccgj.qc.ca.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Envie de bouger au son du country. Le 18 avril dès 19h, direction la salle municipale de Saint-Paul pour une soirée de danse country ouverte à tous. Avec le professeur Frédéric Duchesne, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, tout le monde est le bienvenu. Au programme, danse, plaisir et ambiance garantie jusqu'à minuit. Billets 15$. Disponible sur lepointdevente.com ou via la page Facebook de la Fédération UPA Lanaudière. Apportez vos consommations et collations. Une soirée organisée par les syndicats UPA Kildare Lanaudière et d'Autry. Le 18 avril, on danse country à Saint-Paul.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com. CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
L'Union des municipalités du Québec assure la nouvelle première ministre désignée Christine Fréchette de son entière collaboration et lors d'un entretien avec le collègue François Morin, le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, a rappelé certains dossiers prioritaires.
Alors, Guillaume Tremblay, donc, nouvelle chef à la CAQ, c'est confirmé, Christine Fréchette. Évidemment, elle n'aura pas beaucoup de temps pour changer les choses, mais quand même, elle est parlable.
Oui, elle est parlable et on est très content. Tout d'abord, vous me permettrez au nom de l'Union des municipalités du Québec, des villes du Québec, de lui dire un félicitation, qu'on ouvre grand nos portes et qu'on veut vraiment collaborer, travailler en collaboration avec elle et son gouvernement. On a hâte de savoir avec qui on va travailler aux affaires municipales. Maintenant que c'est dit, il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de dossiers à travailler. Bon, on va lui donner la chance au coureur d'arriver, mais soyez assurés qu'on va être là en mode de collaboration.
Bon, je le mentionnais d'entrée de jeu, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Bon, elle va effectivement là, procéder à la nomination de son conseil des ministres, à la constitution de son conseil des ministres. Il y aura une assermentation. En principe, on pourrait peut-être, la session parlementaire pourrait peut-être débuter avant le 5 mai. Mais d'ici la prochaine élection, va falloir passer des messages parce qu'il y a des choses qui titillent encore le monde municipal.
Ben, tout d'abord, la première chose là qu'on demande, et ça, on n'aura pas trop de patience parce qu'il y avait un engagement fort de prise par sa campagne à la course à la chefferie, c'est tout le dossier de l'immigration. Donc, de notre côté, là, pour la vitalité de nos régions, pour nos entreprises à travers le Québec, c'est clair, net et précis que pour nous, ça, on demande un geste rapide dès demain matin pour justement qui pouvait être susceptible d'appliquer sur le programme du PEC, puisse justement le faire, ceux qui étaient déjà ici au Québec. Et ça, c'est un engagement à sa part, donc d'après moi, ça peut aller vite. Mais je le répète, c'est un engagement qui est vraiment important pour la vitalité de nos régions, pour nos entreprises à travers le Québec. Maintenant que ça c'est dit, pour le monde municipal, on pourrait mettre 8, 9, 10 priorités, mais je vais en mettre rien qu'une parce que pour nous, c'est important. On veut voir un positionnement très, très, très clair de la part du gouvernement du Québec en lien avec les infrastructures municipales. Pour nous, c'est une priorité. On a énormément d'amour à mettre sur l'ensemble des infrastructures publiques à travers le Québec, dont les infrastructures municipales, qui, je le répète, sont les propriétés des villes à 60%. Donc, 60% de toutes les infrastructures publiques à travers le Québec appartiennent aux municipalités. On a besoin des sommes d'argent pour nous aider, nous accompagner, parce qu'on voit l'état lamentable de nos infrastructures publiques. Il faut arrêter de faire de la construction neuve, il faut s'occuper du vieux, et on est là, nous, à leur côté pour collaborer, pour avoir du financement récurrent année après année.
Et faut-il le rappeler pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a toujours mésentente entre Ottawa et Québec pour justement là, la signature d'un protocole qui va permettre de verser des milliards au Québec.
Tout à fait. Donc, ça va faire partie aussi de sa to-do list, comme on dit en bon québécois. Donc, de nous assurer que ça soit dans sa liste de choses à faire le plus rapidement possible. Parce que oui, c'est de l'argent qui est sonnant, de l'argent rapide, qui peut rentrer dans les coffres des municipalités. On a besoin de ces sommes-là. Donc, on invite le gouvernement du Québec à travailler fort sur toutes les infrastructures municipales. Puis, je le répète, là, on veut aider le gouvernement à construire du logement, mais d'abord et avant tout, ça nous prend des infrastructures en ordre, des infrastructures égouts, sanitaires, égouts pluviaux pour amener des tuyaux, pour amener l'eau de façon des infrastructures propres, saines. Et pour ça, on a besoin de l'aide du gouvernement du Québec.
En terminant, quand on dit infrastructure, on dit logement. Et quand on dit logement, ben c'est pas nécessairement des logements abordables. C'est des logements sociaux également. Ça, c'est important.
Exactement. Donc, ça prend vraiment un mélange de toutes les sortes de logements. Ça prend du logement social, du logement abordable, du logement privé. Donc, plus que vous avez une gamme de logements, plus que vous répondez à cette demande-là. Donc, comme on dit, tout est dans tout.
Voilà, c'était le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, là, qui dressait sa liste de priorités pour Christine Fréchette, qui, soit dit en passant, sera assermentée mercredi.
Lanaudière PM, religion.
Québec investit plusieurs milliers de dollars dans la rénovation de l'église Notre-Dame-des-Champs à Repentigny, le bâtiment qui a les allures d'une sacoche. D'ailleurs, on surnomme ça la sacoche à Repentigny, là, est encore en activité pour la pratique du culte. Et Régent Turgeon en parle avec les ministres Mathieu Lacombe de la Culture et Pascal Derry, responsable de la région de la Naudière.
Monsieur Lacombe, la fameuse église Notre-Dame-des-Champs à Repentigny va être protégée et va être rénovée. C'est quoi le processus qu'il y a eu derrière cette décision-là?
Bien, évidemment, il y a des travaux d'urgence qui doivent être effectués sur l'église. La sacoche, comme on l'appelle ici dans le coin. Je suis député de Papineau, ministre responsable de la région d'Outaouais, en plus d'être ministre de la Culture et des Communications, mais j'ai grandi ici à Repentigny, donc c'est un coin que je connais bien. Ouais. Puis l'église, elle a vieilli. On voit que le bardeau de cèdre, entre autres, sur la couverture a besoin d'être changé. Donc, c'est une demande qui nous est venue directement des gens qui s'occupent de l'église, à savoir qu'on devait effectuer ces travaux-là d'urgence. Donc, d'une part, on leur octroie 1,1 million pour être capable de faire ces travaux. Mais ensuite, il y a tout le caractère patrimonial. Et là, c'est intéressant de le souligner, c'est que j'ai procédé à un avis d'intention de classement pour l'ensemble paroissial ici, l'ensemble paroissial Notre-Dame-des-Champs, qui comprend l'église, la sacristie, le presbytère, parce qu'il y a quelque chose de très unique. Évidemment, je vous dis à la blague, on l'appelle la sacoche. C'est vrai, les gens l'appellent comme ça parce qu'elle a un caractère unique, son architecture est unique, puis ça témoigne aussi d'une certaine époque, le début des années 60, le renouveau à une époque où les quartiers comme celui dans lequel on se trouve étaient en pleine effervescence parce que la population à Repentigny augmentait grandement. Donc, c'est important pour nous de procéder à ce classement-là.
Mais là, on peut penser que les travaux vont se faire dans les prochains mois. Il y a un sentiment d'urgence ici, là?
Ce sont des travaux, effectivement, qui sont qualifiés d'urgents par la paroisse. Donc, oui, les travaux vont être effectués, nous dit-on, rapidement. Ensuite, bon, l'échéancier, ça relève des entrepreneurs qui feront les travaux, puis évidemment, des gens ici de la fabrique, mais de notre côté, on comprend que ce sont des travaux d'urgence, puis l'argent va être disponible.
Est-ce qu'on doit penser que ce type d'investissement-là vient refléter le fait qu'il est important de protéger notre patrimoine bâti religieux au Québec?
Oui, c'est important. C'est important, puis on a beaucoup de priorités au Québec. Il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Je pourrais parler comme ministre de la Culture des musées. Je pourrais vous parler de plein de priorités, mais c'est sûr qu'il faut aussi s'occuper de ce qui est patrimonial parce qu'une fois que c'est parti, ça ne revient pas. Donc, il faut s'en occuper. Je pense qu'on le fait, notamment avec le patrimoine religieux. Cette année, on est beaucoup dans des travaux de maintien, des travaux d'urgence parce qu'il y a des travaux qui sont nécessaires un peu partout au Québec. Mais oui, c'est important de le faire, surtout quand c'est quand ça a un caractère aussi singulier qu'ici dans la région, quand on dit aux gens est-ce qu'on se retrouve, oui, on va se retrouver dans le coin de la sacoche, les gens le savent, ça devient une référence à un moment donné, ces lieux-là qui sont singuliers d'un point de vue architectural. Donc oui, c'est important.
Une question de fierté aussi, la fierté québécoise en quelque part, fait de notre héritage, de notre passé.
Tout à fait, tout à fait, ça fait partie de notre histoire. Donc, sous le même principe que bien d'autres bâtiments, ça fait partie de notre histoire. Donc oui, il faut protéger ces vestiges de notre histoire qui sont encore bien vivants parce qu'il y a encore des fidèles ici.
Pascal Derry, ministre de l'Emploi, responsable de la région de la Naudière et député de Repentigny. Rénovation et protection de l'église Notre-Dame-des-Champs, Notre-Dame-des-Champs-Repentigny. Ça vous fait un petit velours?
Absolument. Je trouve que c'est une belle annonce. Puis je veux remercier mon collègue Mathieu Lacombe parce que là, évidemment, c'est des sommes qu'on alloue pour refaire un peu les bardeaux. Vous avez vu les bardeaux dans quel état ils sont, là, ça fait longtemps. Mais ça montre à quel point c'est vraiment un symbole non seulement au point de vue de l'architecture, parce que ça remonte à la Révolution tranquille, mais c'est un symbole de fierté ici dans Repentigny. Il n'y a personne qui rentre ici sans savoir c'est quoi la sacoche, là. Donc, je pense que c'est des travaux qui étaient nécessaires. Il y a même des travaux urgents à effectuer. Donc, je suis très, très fière de pouvoir annoncer avec mon collègue aujourd'hui cette somme-là.
Est-ce que ça envoie le message qu'on devrait en faire plus, peut-être, pour protéger notre patrimoine bâti religieux?
Mais c'est ce qu'on fait. Je pense que du côté de la culture, on met énormément de sommes à préserver le patrimoine. Je pense qu'on est le gouvernement qui avons investi les plus importantes sommes pour être capable justement de faire de la restauration, de conserver le patrimoine que nous avons. Donc, encore une fois, je suis très, très fière de pouvoir être là aujourd'hui pour dire que justement, on va finalement pouvoir faire les rénovations. Nous, on passe ici tout le temps. Hein? On la voit tout le temps, la sacoche, là, quasiment tous les jours. Donc, de voir qu'il y a des travaux urgents qui vont se faire. Mais je pense que même les gens de la communauté vont beaucoup apprécier puis vont être contents de voir que ces travaux-là vont se faire finalement.
Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres endroits dans la Naudière, qui est quand même une vieille région au riche patrimoine religieux, qui pourrait faire l'objet, comme cette église-là, de rénovation? C'est à voir.
Écoutez, brûle pour point comme ça, j'ai pas de réponse, mais il y a plusieurs... Partout à travers le Québec, je vous dirais qu'il y a des travaux à faire. On verra. Mais la culture a déjà fait beaucoup. Le ministre de la Culture fait énormément pour préserver le patrimoine. On a mis énormément d'argent aussi. On est très soucieux, évidemment, de l'état de cette architecture-là qu'on a réussi à préserver au Québec. Puis on va continuer de le faire.
La ministre responsable de la région de la Naudière, Pascale Desrieux, on a entendu aussi dans les dernières minutes Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, avec qui Régent Turgeon s'est entretenu. Et c'est vrai que l'église Notre-Dame-des-Champs, ou si vous préférez, la sacoche, a une magnifique architecture. Ça date de 1963 et ça a été conçu à l'époque par l'architecte Roger Daou. Et il faut dire qu'à cette époque, les années 60-70, en banlieue, on construisait des églises, ma foi, absolument affreuse. J'ai juste à penser à Montréal-Nord, d'où je suis originaire, l'église Sainte-Colette. C'est laid comme ça se peut pas, mais du côté de Repentigny, on avait du goût et on a choisi un architecte qui a fait une fichue de bel job avec la sacoche, donc Roger Daou, l'architecte de cette église qui sera rénovée. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est passablement dense depuis l'avenue Marien et ce jusqu'au boulevard Henri Bourassa. Pour la suite des choses, ça va très bien. On franchit aisément la rivière des Prairies, secteur Repentigny, 40 Est, c'est facile en ce moment. La 341 montée de l'Épiphanie, assez dense entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, oui, ça va très bien depuis Notre-Dame ou encore Sherbrooke. 25 Nord, jonction avec la 440 Laval, là, c'est dense sur environ 500 mètres, voire 1 km par la suite des choses. Ouais, pour la suite, ça va bien. Traversée facile vers l'île Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, ça va bien. Pont Sophie-Masson, on circule sans entrave et finalement, autoroute 640. Entre la 25 et la 40, direction ouest, un petit peu d'achalandage à partir de la montée des Pionniers pour la 40. Sinon, en direction ouest, ça va bien. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus. Le jeu doit rester un jeu.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Envie de bouger au son du country? Le 18 avril dès 19h, direction la salle municipale de Saint-Paul pour une soirée de danse country ouverte à tous. Avec le professeur Frédéric Duchesne, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, tout le monde est le bienvenu. Au programme, danse, plaisir et ambiance garantie jusqu'à minuit. Billets, 15 $. Disponible sur lepointdevente.com ou via la page Facebook de la Fédération UPA Lanaudière. Apportez vos consommations et collations. Une soirée organisée par les syndicats UPA Kildare Lanaudière et d'Autré. Le 18 avril, on danse country à Saint-Paul.
Jusqu'au 6 mai, c'est le mois de la lessive chez Ameublement SJ Dion. Profitez de double rabais sur les ensembles laveuses-sécheuses. Un prix spécial en magasin, plus un rabais de $150 sur toutes les buanderies GE et GE Profile. Vous aimez les modèles simples, faciles à utiliser? Ou la grande cuve avec plein d'eau pour les méga brassés? On a ce qu'il vous faut. Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Dit, on change de laveuse? Maintenant.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, éternellement dévouée.
L'actualité de ce lundi 13 avril en manchette. Mark Carney pourrait aller chercher sa majorité ce soir. Lendemain de victoire pour Christine Fréchette, nouvelle première ministre, et une autre sortie de Trump qui dérange. Tout d'abord, Pierre Jubinville, trois partiels à surveiller, dont celle de Terrebonne.
Oui, Mark Carney deviendra probablement majoritaire ce soir. Le résultat le plus serré sera probablement aussi à Terrebonne. En 2025, la libérale Tatiana Auguste l'avait remporté par un seul vote. 18 000 personnes ont déjà voté par anticipation. On écoute Philippe Bonneville.
Il n'y a effectivement aucun suspense pour deux des trois partiels, car les libéraux sont pratiquement assurés de remporter les deux circonscriptions ontariennes où des élections ont lieu aujourd'hui. Des circonscriptions qui appartenaient à l'ancienne vice-première ministre Chrystia Freeland et à l'ancien ministre de la Défense Bill Blair. Et avec ces deux victoires, Mark Carney obtiendra ce qu'il souhaite, soit une majorité claire, une majorité franche à la Chambre des communes. Du côté de Terrebonne, la lutte semble serrée. On rappelle qu'en raison d'une irrégularité, la Cour suprême a annulé l'élection dans cette circonscription qui avait été remportée par les libéraux par une seule voix. C'est donc un match revanche aujourd'hui entre les libéraux et les bloquistes. Les bloquistes qui ont presque toujours détenu cette circonscription au cours des dernières décennies. Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Et Pierre Jubinville, Christine Fréchette était déjà sur le terrain ce matin.
Oui, elle est arrivée à Québec. Elle amorce la transition entre l'administration Legault et la sienne. Elle a surtout un important travail d'unité à faire au sein même des troupes caquistes et elle doit donner sous peu une première conférence de presse en tant que premier ministre. On écoute Louis Lacroix.
Après un bain de foule à Trois-Rivières, la nouvelle première ministre est arrivée à l'édifice Honoré-Mercier, siège du conseil exécutif.
Très spécial, je me sens fébrile parce que c'est mon premier jour dans le cadre de mon nouveau rôle de première ministre.
Elle doit rencontrer le secrétaire général du gouvernement, David Bahan, pour amorcer la transition. Mais surtout, Christine Fréchette doit recoller les pots cassés par presque deux mois de course à la chefferie.
Et on va commencer par rassembler ce beau parti. On aura un caucus mercredi et puis faire en sorte de travailler pour les Québécois.
Dans un message sur les réseaux sociaux, Bernard Drainville l'a assuré de son appui. Une bonne nouvelle pour la nouvelle chef caquiste.
On a besoin de Bernard pour la suite. Il a beaucoup à apporter, à la fois au parti et au Québec. Et je vais m'assurer qu'il a des responsabilités à la hauteur de son talent.
Les deux ex-adversaires ont convenu de se rencontrer plus tard aujourd'hui. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et Pierre, Christine Fréchette a comme pas le choix de tendre la main à Bernard Drainville.
Oui, parce que selon notre analyste Mathieu Bélanger, le score de 42% obtenu par Drainville et la manifestation d'un courant au sein du parti dont doit tenir compte Mme Fréchette.
Ça montre qu'il y a quand même un courant qui était porté par Bernard Drainville et que il a clairement sa place au Conseil des ministres et que si celle-ci le tassait, ça créerait des gros problèmes au sein de la CAQ. Il représente une portion importante de la CAQ. Et c'est ça le message important qu'on peut retenir d'hier et de ce résultat-là.
Santé maintenant, quand même une bonne nouvelle, les cas de cancer diminuent.
Oui, cette année, globalement, au pays, selon l'Association médicale canadienne. Par contre, le Québec demeure le cancre de la classe. Annie Guillemette.
Malgré les quelques 254 000 diagnostics et les 88 000 décès, la situation s'améliore. Les cancers les plus fréquents du poumon, de la prostate, du sein et colorectal représentent la moitié des cas, mais sont en baisse. Sauf que ceux du pancréas, de l'endomètre et du col de l'utérus augmentent ou diminuent trop lentement. Là où le porte-parole de la Société canadienne du cancer, le docteur Denis Soulière, est le plus alarmant, c'est concernant les cancers de la gorge chez les jeunes hommes causés par le virus du papillome humain.
On considère même que c'est un niveau qui est presque épidémique.
Aussi, le Québec continue de présenter le tableau le plus sombre au Canada et le haut taux de tabagisme du passé n'explique pas tout. Les services sont déficients, selon l'hémato-oncologue.
Il faut qu'effectivement, on investisse davantage pour faire en sorte que nos programmes de dépistage soient au moins équivalents à ce qui existe au Canada.
Il réclame aussi une amélioration rapide des soins pour diminuer le taux de mortalité. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Pierre, il y a Hydro-Québec là, qui lance des appels d'offres pour des éoliennes.
On va sûrement en voir apparaître d'ici quelques années dans le paysage lanaudois. Cet appel d'offres repose sur des critères visant à maximiser les retombées économiques au Québec, assurer aussi une intégration dite harmonieuse des projets dans les milieux d'accueil. Ça, c'est le langage officiel. L'appel d'offres se déroulera en trois rondes afin d'offrir davantage de marge de manœuvre aux promoteurs et aux milieux locaux pour consulter la population. Le potentiel de développement identifié par Hydro-Québec dans la Naudière est de 525 MW dans la région de Joliette et 100 MW en Matawinie pour la première ronde. Les projets retenus nous visons une mise en service entre 2031 et 2035.
Et finalement, Pierre, Donald Trump s'en prend maintenant au pape qui, faut-il le rappeler, est d'origine américaine.
Oui, M. Trump, qu'on ne peut éviter. Chaque jour, il nous sort un lapin de son... En tout cas, il refuse de s'excuser auprès du pape Léon. Il a affirmé dimanche que le souverain pontife devrait cesser de se plier aux exigences de la gauche radicale. Alors, le pape est devenu un représentant de la gauche radicale pour M. Trump. Il avait au préalablement dénoncé le pape d'un délire de toute puissance au sujet de la guerre en Iran. Et il dit, le pape Léon, qu'il n'a aucune crainte de l'administration Trump. Après l'échec des pourparlers de paix au Pakistan, le président américain, lui, et ses conseillers envisageraient de reprendre des frappes militaires limitées en Iran. En plus du blocus américain du détroit d'Ormuz, le Wall Street Journal rapporte aussi que l'armée iranienne, affirme que le blocus naval américain est illégal et constitue un acte de piraterie. Thomas Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, voit beaucoup d'incohérences dans les décisions du président.
Les États-Unis veulent ouvrir le détroit d'Ormuz pour pouvoir rétablir le commerce mondial du pétrole. Et là, les États-Unis disent qu'ils vont fermer le blocus au trafic iranien. Mais si les États-Unis font ça, les Iraniens vont menacer de fermer le reste du trafic dans le détroit aux navires non-iraniens. Alors, à ce moment-là, on se ramasse de facto à prolonger la fermeture du Golfe et donc l'impact négatif sur l'économie mondiale.
On peut mentionner, en terminant, Pierre Jubinville, que la première ministre Christine Fréchette donne actuellement son premier point de presse.
En tant que premier ministre.
Exactement. On aura l'occasion de revenir là-dessus, entre autres avec Pierre Paquette, un petit peu plus tard. Merci Pierre Jubinville.
Merci, bonne soirée.
Il est 16h38.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM.
immobilier. La MRC Matawini fait de l'habitation une priorité et encore la semaine passée, il y a des intervenants de plusieurs milieux qui se sont réunis lors d'un atelier collaboratif là, sur les enjeux d'habitation et les solutions possibles. François Morin en discute avec la préfète de la MRC, Isabelle Perrault.
Isabelle Perrault, la semaine dernière, on s'est réunis en Matawini pour faire le point là, sur le dossier habitation, parce que chez vous, comme ailleurs dans la région, même au Québec, on vit des problématiques.
Oui, ben en fait, c'est partout, comme partout ailleurs, effectivement, c'est un peu difficile de développer des logements abordables et sociaux. Faut en faire la distinction là, c'est-à-dire que les logements sociaux, ben c'est vraiment là, il y a des programmes là qui font en sorte que le gouvernement paye une grande partie du logement. Les logements abordables, ben, c'est des logements qui sont un peu en dessous du marché locatif. Donc oui, on s'est mis tous ensemble à Matawini, on a fait venir des spécialistes là du développement de logements sociaux. On a fait venir aussi des spécialistes de tous les programmes qui existent là, pour aider les municipalités, non seulement à stimuler le fait d'avoir la construction de logements abordables et sociaux et des logements tout court, là, parce que la pénurie de logements, c'est aussi avec les logements dits réguliers. Donc, aider les municipalités à développer ce type de projet-là, mais aussi à les anticiper, c'est-à-dire s'assurer là, que toutes les infrastructures sont toutes les infrastructures, toute la réglementation est en place. Explorer aussi la réglementation qui pourrait faire en sorte de régler certains petits problèmes. Là. On a des outils urbanistiques qui peuvent nous permettre parfois de faire des projets. Je pense entre autres à des projets intégrés. Je pense entre autres aux bâtiments accessoires qui peuvent devenir des unités d'habitation. Donc vraiment, on a fait là un 360 du dossier habitation et là chaque municipalité est bien outillée et part à faire les premiers devoirs, puis on a prévu faire un autre atelier. Tu sais, on fonctionne beaucoup comme ça en Matawini. Beaucoup d'informations, discussions, puis ensuite de ça, ben on suit les projets, puis on s'assure que les municipalités qui ont non seulement l'envie, mais qui ont les outils pour le faire, ben puissent aller au bout de ces projets-là. Mettre en commun nos expériences aussi, nos bons coups. Je pense entre autres aux maisons Féliciennes à Saint-Félix qui sont un bel exemple, là.
Il y a quand même sur la table une entente fédérale-provinciale qui tarde à être signée, donc il y a de l'argent qui n'est pas disponible pour les municipalités et ça retarde la réalisation de projets.
Ouais, ça retarde certains programmes pour la réalisation de projets, mais aussi il y a des municipalités qui auraient de la possibilité de faire affaire avec des promoteurs qui seraient prêts à réserver un pourcentage d'unités de logement pour des logements abordables, par exemple, mais les programmes ne sont pas conçus pour ça. Ils sont pas conçus pour prévoir que les projets auront certaines unités abordables. Donc, on va passer des résolutions pour faire pression sur les gouvernements afin de modifier certaines politiques publiques là, pour s'assurer qu'on soit capable de faire en sorte que avant même que le projet soit construit, on puisse réserver à l'intérieur de ces projets-là quelques unités pour des logements abordables.
C'est le nerf de la guerre pour les municipalités, c'est qu'on veut attirer du monde, mais pour attirer du monde, ça prend du logement, effectivement.
Mais en fait, il faut que ce soit directement en lien avec les besoins réels de notre population. On a aussi une attractivité de la région de la Matawini par des familles qui viennent s'installer ici pour... tu sais, par exemple, qui travaillent à l'extérieur de la région, mais qui viennent s'installer ici. Donc, effectivement, ça prend une offre importante en habitation. Et là, plein de choses découlent, là, les garderies, les écoles, les infrastructures de loisirs pour les familles. Donc, quand je parlais d'anticiper aussi comment une municipalité peut se préparer, ben ça fait partie de ça aussi. Mais je vous avoue que le logement, tu sais, on l'a pas vu venir. Là. Qui aurait pu croire qu'en Matawini, on aurait une pénurie de logements dans les années 2015 ou environ, là, tu sais, je veux dire, c'était pas nécessairement un sujet qui était les municipalités ne se souciaient à peu près pas de ça puisqu'il y en avait très suffisamment. Là, on est ailleurs, puis il faut être proactif là dans tout dans le développement de notre région de cette façon-là.
Bon, voilà, c'était Isabelle Perrault, la préfète de la MRC de Matawini, avec qui François Morin a parlé un peu plus tôt. Là, il est 16h43. Dans un instant, Pierre Paquette.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-Vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de dévoiler les finalistes de la 40e édition du gala Excelsior présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière. Dans la catégorie entreprise agricole ou agroalimentaire, les finalistes sont la cabane à sucre Osias et la fromagerie du champ à la Meule. Dans la catégorie relève et reprenariat, les finalistes sont la Votex, alternateur démarreur batterie, le bistrot La Belle Excuse et Charcot Sécurité. Félicitations à tous les finalistes. Les lauréats seront dévoilés le 8 mai prochain dans le cadre du Bal en Blanc au Centre culturel Desjardins.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre, bon début de semaine.
Oui, bonjour.
La CAQ a choisi hier sa nouvelle chef, Christine Fréchette, à 58 %. Bernard Drainville a, quant à lui, récolté 42 % des voix. La question qu'on peut se poser, y aura-t-il un risque de scission à la CAQ?
Ben, pas d'après les déclarations officielles, malgré que je pense que Drainville a fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer au début de la campagne, là. Il s'est rallié. J'ai entendu aussi des députés qui l'avaient appuyé. Ils se sont ralliés aussi. Peut-être même de façon plus enthousiaste que Drainville lui-même par rapport à ce qu'on a vu hier soir.
Oui, il faut rappeler que Bernard Drainville a sacré son camp carrément, là.
Ah, exactement. Il a même pas voulu rencontrer les journalistes. Puis il avait vraiment l'air d'être débité. Pourtant, j'imagine qu'il connaissait les résultats plusieurs minutes, sinon heures à l'avance. Donc, c'est une réaction un peu émotive, là, un peu trop émotive pour quelqu'un qui est en politique depuis si longtemps. Mais je pense pas qu'il va y avoir de scission comme telle, mais il risque d'avoir, moi, ce que j'appelle des votes avec les pieds, c'est-à-dire des gens qui sont déçus des résultats, qui vont aller. Puis là, c'est là où Paul Saint-Pierre Plamondon tape du pied, là, c'est-à-dire d'aller chercher le vote plus nationaliste qui était à la CAQ, qui avait quitté le PQ, pour les ramener au bercail, parce que on a vu aussi les sondages en fin de semaine. La venue de Mme Fréchette, ça favorise le retour des fédéralistes qui étaient partis vers le Parti libéral. Alors, Ça, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a bien compris. Il va jouer là-dessus au cours des prochaines semaines. C'est assez évident. Puis elle semble effectivement être beaucoup moins nationaliste que l'était François Legault et que l'est Bernard Drainville. Alors, ça peut donner des résultats.
On dit que Christine Fréchette serait peinturée en rouge à quelque part, là.
Ben, c'est exactement ce que certains pensent, même parmi la députation, là. C'est là où est-ce que je dis que soit il va y avoir des députés qui ne se représenteront pas, puis qui peut-être vont commencer à flirter avec le Parti québécois, peut-être pas pour la prochaine élection, mais pour le reste de leur carrière politique.
Le Parti conservateur, quant à lui, parce que j'imagine que Duhaime doit faire du maraudage, là. Il a l'habitude de faire ça.
Je pense que du côté de la Beauce, puis Chaudière-Appalaches, il va y avoir quelques députés de la CAQ qui se sentiraient plus à l'aise, peut-être, avec le Parti conservateur du Québec, avec le PQ, alors ou le Parti libéral. Alors, non, je pense que ça ouvre un peu une espèce de chasse aux militants et aux députés. Mais encore une fois, je m'attends à une scission en bonne et due forme, là, comme on a vu avec certains partis, certaines organisations, là où vraiment il y avait un départ. Alors, non, ça, je m'attends pas à ça. Mais par contre, comme je le mentionnais, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont faire le choix d'aller rejoindre le PQ, d'aller rejoindre le Parti conservateur du Québec ou d'aller tout simplement au Parti libéral du Québec plutôt que de rester à la CAQ. Mais il semble qu'à première vue, Mme Fréchette va rechercher un certain appui dans l'électorat. Puis ça, comme je mentionnais, je pense que ça peut être bon pour particulièrement le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon.
Les sondages qu'on a vus là, de Léger là, dans les derniers jours, selon moi, ça vaut pas une claque parce que faut laisser le temps à Christine Fréchette là, de prendre ses aises et de nommer son nouveau conseil des ministres la semaine prochaine. Quant à elle, Christine Fréchette, elle sera mercredi, elle sera assermentée, les nouveaux ministres la semaine prochaine. Là.
Oui, exactement. Mais je suis d'accord avec toi que les premiers sondages qui sont sortis en fin de semaine sont pas vraiment... bon, c'est sûr, ça donne de quoi discuter, là, mais je veux dire, c'est pas basé sur la pratique politique de Mme Fréchette. On va voir au cours des prochains jours, là, des prochaines semaines, si elle est capable de ramener... la barre de la CAQ auprès de l'électorat, moi j'en doute fortement. Peut-être à la marge, des gens qui étaient déjà caquistes, soit nationalistes, soit plus rouges, mais pour ce qui est du grand public, je ne crois pas que ça va donner des résultats faramineux. Je regarde un peu les choses qu'elle a mis de l'avant au cours des dernières heures, là, des derniers jours. Bon, aider pour le coût de la vie, tout le monde tente de faire ça, tous les gouvernements tentent de faire ça. Monsieur Legault a tenté de faire ça, Monsieur Trudeau a tenté de faire ça, puis finalement, ça donne des résultats qui sont toujours un peu décevants. Puis pour le reste, on sait pas trop du côté des... la Constitution, par exemple, du Québec, que le ministre de la Justice aime tant...
Simon Jolin Barrette, oui.
Ouais, je pense pas qu'elle va le ramener lors du retour de la session, puis ça risque de créer des frictions aussi. Alors, et à ce moment-là, quand ces frictions-là vont apparaître ou ces tensions-là vont apparaître, ben l'électorat devra juger, et je pense que ça va donner de piètres résultats, parce qu'on voit pas de lune de miel avec Mme Fréchette, même au cours de la campagne au leadership qui s'est déroulée au cours des dernières semaines, on n'a pas vu sa cote de popularité augmenter. Elle s'est maintenue, mais elle n'a pas augmenté, alors qu'on aurait pu s'attendre qu'elle augmente. Et encore une fois, je pense que la campagne de M. Drainville, à la fin d'un bout de piste, a donné pas mal plus de résultats que ce qu'on escomptait. Elle escomptait.
On est dans un cas totalement différent, une situation totalement différente, si on peut faire une comparaison avec Justin Trudeau qui a quitté le Parti libéral l'an passé et l'arrivée de Mark Carney. Là, c'est complètement différent.
Ah, ça, c'est sûr. Quand Justin Trudeau est parti, le Parti libéral du Canada était complètement à la dérive et puis Carney est arrivé comme un sauveur. Je pense pas que Mme Fréchette arrive comme une sauveuse de la CAQ, là. Et puis on a pu voir que les premiers ministres désignés, là, il y en a eu plusieurs au cours des dernières décennies, il n'y en a jamais un qui a réussi à se faire élire. M. Carney a réussi, c'est un exploit. Mais je pense pas qu'il va se reproduire au Québec au cours de la prochaine élection. Alors, Ça va se voir au cours des prochaines semaines, j'en suis convaincu.
Ça a joué du coude dans cette course à la chefferie entre Christine Fréchette et Bernard Drainville. On y est allé même d'insultes, et Drainville qui traitait carrément Christine Fréchette de menteuse. Et là, Christine Fréchette a promis quand même une place à Bernard Drainville au sein de son conseil des ministres. C'est peut-être une job d'été, là, on s'entend là-dessus. Là,
oui,
mais,
oui, c'est sûr.
mais quand même, Drainville, rappelons-le qu'il était à l'environnement avant de se lancer dans la course à la chefferie, quelle place pourrait-elle lui donner?
J'avoue là qu'elle va sûrement faire preuve de beaucoup d'imagination, parce qu'il faut lui donner quand même un espace qui, au plan politique, est significatif, mais il ne faut pas lui donner trop d'espace non plus. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va jouer avec ça. Et elle a besoin de faire un geste significatif envers Drainville pour justement rallier les militants et les députés qui l'ont appuyé au cours des dernières semaines. Alors, elle n'aura pas le choix de faire un geste. Maintenant, de quel ordre ça va être? C'est certainement pas ministre des Finances, ça, c'est sûr, ni de la Justice, mais je pense qu'il va, elle va lui donner un portefeuille important, mais qui n'a pas d'incidence, je dirais, politique au plan quotidien, là. Pas quelque chose comme Conseil du Trésor ou Sécurité publique, là. Alors, ça intéressant à voir, puis ils sont supposés avoir une rencontre ce soir. Ça aussi, je suis très intéressé à voir les résultats de cette rencontre-là. Je pense que ça va être assez déterminant pour M. Drainville et pour Mme Fréchette.
Chose certaine, c'est que Christine Fréchette a énormément de pain sur la planche là d'ici l'automne prochain, si elle veut relancer la CAQ. Je ne sais pas quelle recette elle va utiliser, quel plan elle a, mais ce ne sera pas évident. On va suivre
peut-être
ça,
la évidemment. La potion magique de Panoramé, des Gaulois.
Oui. Pierre Paquette, merci beaucoup.
Merci, à mercredi. Bye.
Lanaudière PM. Affaires.
La chope à pain de Terrebonne connaît une demande accrue pour ses produits à la suite de l'obtention d'un grand prix qui a été remporté pour une brioche originale au moment de la première édition de la Coupe du monde de la viennoiserie tenue il y a quelques mois du côté de la France. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer le propriétaire de la chope à pain de Terrebonne, Guillaume Roy, également le concepteur de la fameuse brioche, Damien Agliata. On écoute l'entretien.
Dites-moi, le prix que vous avez gagné l'automne dernier, peut-être me rappeler un peu dans quelles circonstances ce que c'était.
Les ambassadeurs pâtissiers du monde ont organisé la première Coupe du monde de la viennoiserie. Ça se tenait en Bretagne en novembre dernier, en 2025. 14 pays étaient invités, dont la France, évidemment, l'Italie, l'Angleterre était là, l'Australie et le Canada. Donc, Damien représentait le Canada à cette Coupe du monde. Il a terminé troisième meilleur au monde devant la France, ce qui n'est pas rien. Et il a aussi remporté un prix distinctif qui est la meilleure brioche du pays au monde.
Parle-moi de cette brioche, justement, M. Damien. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? C'est une recette secrète?
Non, c'est pas une recette secrète, mais j'ai voulu faire une brioche qui représentait un peu les feuilles d'automne. Donc, une brioche un peu marbrée, rouge et jaune, avec une crème pâtissière à l'érable, avec des pécanes grillées à l'intérieur.
Et là, on n'arrive pas dans ces concours-là sans un certain vécu dans le domaine de l'alimentation, de la cuisine et de la boulangerie, là.
Non, effectivement, moi, je suis boulanger de quatrième génération. J'ai commencé le métier à 17 ans. Donc, ça fait un bon petit bout que je suis dans le métier. Donc, voilà.
C'est une belle reconnaissance. On l'a pris joyeusement, ce prix-là.
Oui, évidemment. On a travaillé dur, donc c'est le fruit de beaucoup de travail. Donc,
Monsieur Roy, des prix de même, ça fait vite le tour du Canada, de la province, puis de Lanaudière. Ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires. Vous avez vu une différence?
Oui, sur le coup, on a vu une augmentation de 60% de l'achalandage en boutique. Et ça s'est maintenu autour de 30% depuis 5 mois maintenant. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui nous connaissaient pas, nous ont connus grâce à ce prix-là. Beaucoup de gens qui nous connaissaient de nom ont décidé de se donner la peine de venir nous voir. Et puis, l'essayer la chape à pain, c'est l'adopter. On a notre entreprise familiale, artisanale 100%, produits frais tous les jours. Donc ça a des prix très bas. Donc ça nous a permis de fidéliser notre clientèle.
Et on peut voir, j'imagine, l'avenir avec plus d'optimisme encore.
Ah, complètement. Damien participe à la Coupe du Canada de la viennoiserie en novembre prochain, en espérant gagner et représenter le Canada à nouveau à la deuxième édition de la Coupe du Monde. Et puis, ça nous permet de continuellement innover, puis de sortir des nouveaux produits, puis gâter notre clientèle.
Est-ce qu'on peut envisager une expansion de l'entreprise, des investissements, des agrandissements?
Il y a une chape à pain, il y en aura toujours juste une. Je suis pas chaud à l'idée d'ouvrir des franchises, parce qu'on ne veut pas diluer la qualité de notre produit. Par contre, il va y avoir des investissements peut-être dans les équipements pour permettre d'améliorer la qualité du produit continuellement.
Monsieur Damien, prochaine compétition, on va préparer quoi? Là, on faut y penser.
On y pense, mais ça, c'est un petit peu secret. On ne veut pas dévoiler ce qu'on va présenter au prochain concours, mais je suis en train de travailler dessus.
On parle quand même de pâtisserie dans ce cas-ci?
Exactement la même chose, la viennoiserie, essentiellement de la viennoiserie.
Ben bravo, tout le monde à la chope à pain de Terrebonne là, pour manger cette fameuse brioche gagnante du Grand Prix là, de la Coupe du Monde de la viennoiserie. Il est 16h59, c'est le moment de saluer et remercier les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, François Morin-Pierre, Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h avec le 5 à 7 trad. Nous, on est là demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM à CFNJ. Salut!